cours de métaphysique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 13 janvier 1988.
Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit hier à propos de l'autonomie, de notre autonomie personnelle, l'expérience que nous avons de ce que peut représenter cette autonomie personnelle, ce quelque chose qui nous distingue des autres et qui nous permet en même temps d'être nous-mêmes. Comprendre ce que saint Thomas appelle aliquid. Et saint Thomas parle de cet aliquid dès le De Veritate, question première, article premier. En montrant que aliquid est un des transcendentaux. Et je crois que c'est là le noyau fondamental de cette expérience que nous avons de notre autonomie. Nous avons cette autre expérience de notre relation avec les autres, de la possibilité de la communication. Oui, aujourd'hui, on ne parle plus que de la communication. Alors, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien à communiquer. C'est comme ça qu'on va se terminer notre culture, qui n'est plus qu'une culture de la communication. C'est très curieux, ça. Mais c'est vrai que c'est les deux pôles de notre expérience personnelle. Nous sommes autonomes et nous avons la possibilité de rencontrer les autres. De rencontrer les autres et de communiquer avec les autres. De leur donner et de recevoir. Nous touchons là, si vous voulez, à ces deux grands aspects de notre personne. Il y a un ordre entre ces deux aspects, c'est bien évident, et peut-être que l'ordre entre ces deux aspects touche quelque chose de très fondamental dans la philosophie vers laquelle on s'oriente. De fait, dans l'histoire de la pensée, on peut dire que c'est les deux grands centres de réflexion philosophique. La philosophie grecque a commencé par le point de vue de l'autonomie et de l'ousia, et la philosophie moderne développe la relation. À tel point que les néo-hégéliens ne voient plus que la relation. À ce point de vue-là, ils sont logiques. Hegel maintient encore la substantialité, mais en réalité, ce n'est plus la substance. Dans une perspective dialectique, c'est la relation qui l'emporte. Et alors, vous avez la philosophie de Hamelin, qui dit avec beaucoup de force que c'est la relation qui constitue la réalité. Le premier Merleau-Ponty dira que l'être est un tissu de relations. Le second Merleau-Ponty, qui sort un peu de la phénoménologie, cherchera l'être sauvage, donc la substance. On pourrait, voyez, faire toute l'histoire de la pensée occidentale avec ces deux aspects-là. L'aspect de l'autonomie substantielle et l'aspect de la communication, la relation. Alors, on pourrait, voyez, commencer tout de suite le point de vue de la relation. C'est vrai, c'est autonomie et relation qui expriment comme les deux tendances fondamentales de l'être. Ce qui est, nous est donné en premier lieu dans cette autonomie. Ceci est. Là, on touche le noyau fondamental de l'autonomie. Et en même temps, on peut dire l'éclatement de l'être dans le point de vue de la relation. Et l'intase et l'extase. L'intase, cet aspect de ce repliement sur soi. L'autonomie prise d'une façon absolue et prise d'une façon psychologique, ce sera le repliement sur soi. Ne rien devoir à personne pour garder son autonomie absolue. Ne jamais rien demander pour ne rien devoir. C'était la devise de ceux qui se trouvaient juste en face du couvent du Saulchoir. Alors on retient une devise comme celle-là, c'est très significatif. Ne jamais rien demander pour ne rien devoir. Alors ça fait comprendre ce qu'on peut représenter l'autonomie poussée jusqu'au bout. Et alors, la communication, c'est la relation, c'est l'éclatement de l'être. Quelqu'un qui est tout le temps relatif, il ne sait plus où il est. Il ne sait plus où il se situe. Mais c'est toute fenêtre ouverte quand il y a du grand vent. Alors, on voit ce que ça fait. Quand il y a du grand vent, ce n'est pas tout à fait le point de vue de l'air dans lequel on se confine. C'est juste l'inverse. Et c'est vrai que c'est les deux grands aspects de notre être personnel. On fixe là les deux extrêmes. Je crois qu'il faut bien les sentir. Alors, on pourrait commencer tout de suite par l'étude de la relation. De fait, dans le livre sur l'être, c'est ce que je fais. C'est important de voir tout de suite ces deux extrêmes. Je vais plutôt avec vous regarder le fondement de la relation. Les deux grands fondements de la relation. Puis après, on verra la relation. C'est peut-être une approche qui, au point de vue de la pensée, est peut-être plus facile. Regardez la qualité et la quantité. Puis la relation. Voilà les trois grands déterminations de l'être autres que la substance. Vous voyez, quand vous prenez la table des prédicaments, puisque la table des prédicaments est quelque chose qui pour nous est très descriptif et facile à comprendre, vous voyez tout de suite que dans la table des prédicaments, vous avez la quantité et la qualité. Et ceci, c'est l'expérience quotidienne que nous faisons. Comme nous faisons l'expérience quotidienne de la relation. C'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre qualité, quantité, relation. Toujours ce triangle, ces trois. Dès qu'on est dans les déterminations secondaires, elles sont multiples. Alors que la substance est quelque chose de fondamental et de premier. La substance, elle est une. Elle est indivisible. Tandis que l'accident, puisqu'il s'agit d'accident, il s'agit de choses secondaires. Et dès que vous êtes dans les choses secondaires, elles sont multiples. C'est pour ça que ces trois accidents premiers se tiennent qualité, quantité, relation. Alors, on peut tirer l'une ou l'autre devant. Oui, vous pourriez regarder d'abord le point de vue de la quantité. Selon les prédicaments, c'est la quantité, puis la qualité, puis la relation. Et d'autre part, vous pourriez, dans une perspective de philosophie plus personnaliste, comprendre que les deux grandes déterminations de la personne, c'est l'autonomie et la communication. C'est pour ça que ça aurait un avantage de commencer par la relation. Vous pourriez, alors surtout si vous regardez le point de vue théologique, nous y reviendrons, mais je le dis tout de suite parce que c'est très significatif. Vous avez deux grandes définitions de la personne dans le point de vue théologique, la substance et la relation. C'est très curieux. La substance est la fameuse définition de la personne très classique de Boèce. Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est la substance individuelle d'une nature rationnelle. C'est ça la personne. Et quand le théologien veut préciser ce qu'est le Père, ce qu'est le Fils et ce qu'est l'Esprit Saint dans la très sainte Trinité, il voit qu'on ne peut préciser le constitutif formel de la personne divine dans la très sainte Trinité que par la relation. C'est une relation subsistante. C'est très étonnant de voir ça. C'est une constatation, tout simplement. Mais c'est très étonnant de voir que, de fait, les deux grandes définitions de la personne, c'est la substance et la relation. Et vous traduisez ça, tout simplement, que dans votre vie et dans l'expérience que vous avez de votre propre personne, vous avez l'autonomie et la communication. Donc réfléchissez bien là-dessus, parce que ça c'est capital pour nous de bien comprendre cela. Alors, on va analyser qu'est-ce qui permet la communication. Qu'est-ce qui fait la communication? Comment se fait-il que je puisse vous parler? Parce que vous êtes substance, des personnes substantielles, vous avez votre autonomie. Je la respecte. J'ai la mienne. Comment se fait-il qu'on puisse se rencontrer? On ouvre des petites fenêtres. S'il y a du vent, ça va. On peut fermer les fenêtres aussi. Et moi, je vis complètement isolé de vous, complètement séparé de vous. Mais je vis. C'est pas vous qui êtes ma vie. Donc je peux vivre complètement indépendamment de vous, comme vous pouvez vivre complètement indépendamment de moi. Et cependant, si on peut communiquer, mais il y aura quand même une certaine richesse. On va pouvoir se perfectionner. Tandis que si je reste dans mon autonomie absolue, je vais rester le même. L'indivisibilité de ce que représente l'autonomie, de ce que représente la substance. Vous voyez, essayez de bien saisir ces deux pôles de votre personne, en comprenant bien que représente la communication. Vous ne pouvez communiquer avec quelqu'un que dans la mesure où il y a un contact. Mais tout le grand problème de la catéchèse d'aujourd'hui, c'est le problème de la communication de la foi. Comment communiquer la foi? Avant ne se posait pas de problème, c'était la tradition. On plongeait dans un bain de tradition. Aujourd'hui, la tradition ne signifie plus rien. Alors comment communiquer la foi? Et je comprends très bien que c'est ce que me disait un évêque. L'enfant apprend à parler en regardant la télévision. Avant, il apprenait à parler auprès de sa mère. Et donc, il avait au point de départ un langage affectif, d'une relation d'une personne. Aujourd'hui, il apprend à parler en écoutant la télévision. Alors, il n'y a pas de réponse. C'est pas précisément un langage affectif. C'est pas le langage de l'enfant avec sa mère, du fils avec son père. Donc, toute une note affective n'est plus présente. La tradition est supprimée. La télévision supprime la tradition. Elle vous met dans des paysages successifs, des connaissances successives de faits, avec toute leur brutalité. Et plus c'est brutal, mieux ça vaut. Il y a une espèce de discontinuité extrêmement forte qui fait que comment la communication peut-elle se faire? La foi qui est une connaissance affective. S'il n'y a plus une base affective dans la communication, on ne voit pas comment on peut transmettre la foi. La foi est familiale. Elle n'est pas une connaissance technique. Elle n'est pas une connaissance artificielle. Elle n'est pas une connaissance de vision audiovisuelle. Or, si vous n'apprenez que par le point de vue de la vision, comment communiquer la foi? Puisque c'est invisible. Donc c'est pas réel. Tandis que la tradition était affective, elle éveillait le cœur, elle éveillait des liens invisibles d'une personne présente. Oui, c'est pour ça que c'est très important ce problème de la communication. Et philosophiquement parlant, au point de vue métaphysique, nous étudions ce que c'est que la communication en essayant de comprendre qualité, quantité, relation. Il faut ensuite comprendre ce problème au niveau de la personne et au niveau des diverses communications. Là, il y a un problème très très fondamental qu'il faut essayer de saisir et très actuel. Alors, évidemment, aujourd'hui, je me souviens avoir lu une thèse sur la communication à Fribourg. C'était évidemment une thèse de théologie, mais il n'y avait aucune analyse sur la communication. On parlait tout le temps de la communication. On avait dit, mais quels sont les éléments de la communication? Vous en parlez tout le temps, mais vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est communiquer? Quels sont les éléments qui impliquent une communication? Coopérer, c'est une communication. Rencontrer quelqu'un, c'est une communication. Dialoguer avec quelqu'un, c'est une communication. Mais c'est assez différent, la coopération, le dialogue, la rencontre. Dans l'amitié, on coopère avec l'ami. Il y a une communication. Un enfant communique avec sa mère dans le silence. Tandis que communiquer avec un étranger dans le silence, c'est fameux. C'est assez glacial. Vous savez bien, le silence de la mère et de l'enfant, c'est porteur d'une très grande présence. Le silence dans un repas diplomatique, c'est glacial. Ça coupe la communication. Même si on dit qu'il y a un ange qui passe, alors qu'il y a un silence profond. C'est très important, vous voyez, de toucher ce problème. Je le prends comme ça pour que vous compreniez que l'analyse que nous allons faire maintenant de la qualité, de la quantité de la relation, c'est quelque chose de fondamental pour nous pour essayer de comprendre ce que c'est que la communication. Et je crois que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Il est normal, vous voyez. Alors je montre bien ici la démarche au plan philosophie première. On a commencé par élaguer toutes les déterminations secondaires. Qualité, quantité, relation, action, passion. En disant, ce n'est pas le noyau fondamental de l'être. Et on a essayé de découvrir la source de toute détermination. au-delà de la quantité, au-delà de la qualité. On a découvert ce principe, ce noyau, l'ousia, source d'autonomie. Source d'autonomie dans l'ordre de l'être. Source aussi d'isolement dans l'ordre de l'être. Comment se fait-il qu'il y a des êtres qui sont complètement isolés les uns des autres? Ça ne veut pas dire que leur substance est plus parfaite. Ça veut dire que de fait, ils n'ont pas développé leur qualité. Ils n'ont pas développé ce que ça représente le contact. Ils n'ont pas eu assez de sens de la relation. Parce que les relations se cultivent et les relations se détruisent. On le sait bien, ça. Dans l'ordre de l'amitié, on le sait très bien. Si on n'a pas contact constamment avec quelqu'un, au bout d'un certain temps, la relation disparaît. Et on nourrit ces relations. Et on peut aussi les assécher complètement. Alors, ayant dépassé toutes ces déterminations pour découvrir le noyau central de la substance, maintenant, à partir de la substance, nous allons saisir ce que c'est que la qualité. Nous allons saisir ce que c'est que la quantité. Nous allons saisir ce que c'est que la relation. Alors, je vous dis tout de suite, hein, et ça c'est très important. On peut connaître la qualité, la quantité et la relation à des niveaux différents. L'artiste, c'est l'homme de la qualité. Les grands artistes, c'est l'homme de la qualité. Les artistes, ce sont ceux qui mettent en lumière la qualité. Nous verrons pourquoi. Et nous verrons ce que ça signifie. Donc vous pouvez parler de la qualité en artiste. Et les artistes parlent magnifiquement de la qualité. Le philosophe doit toujours un peu se mettre à l'école des artistes pour comprendre la qualité. Le peintre connaît la lumière. Le poète connaît le langage qualitatif, non usé, natif, qui sort de source. Le sculpteur connaît ce que c'est que la quantité. Et ainsi de suite. C'est la quantité dans la figura, pas la quantité pure, la qualité. La qualité dans la quantité, c'est ça qu'il faut dire. Le sculpteur, c'est ça. C'est l'homme de la physionomie. Donc, je peux parler de la qualité au niveau artistique. Alors, je décris. L'artiste décrit. L'artiste n'analyse pas. Il décrit. Je peux parler de la qualité au niveau du mouvement. Alors, je saisis les contraires. Il est évident que c'est le monde des contraires qui permet les tensions et qui permet le drame. Il y a des gens qui sont tragiques et qui aiment les contraires et les suscitent tout de suite. Ils voient les oppositions et ils les mettent en lumière. Les oppositions entre le père et la mère, les oppositions entre le directeur suprême et le directeur inférieur, le général et l'adjudant, les oppositions. Puis alors, une fois qu'on a saisi cette opposition, on la grossit, on la grossit, on la grossit, on la grossit, jusqu'au moment où ça éclate. C'est ça la révolution. Voyez, il y a le doux murmure de l'opposition. Et il y a l'éclatement révolutionnaire. Et c'est toujours les contraires. Celui qui a le sens du mouvement a le sens des contraires. Celui qui est un rhéteur a le sens des contraires. Vous faites des plaidoiries extraordinaires quand vous avez le sens des contraires. Même pour la prédication, puisqu'il y a de la rhétorique, pas le sens des contraires. Si vous n'avez pas le sens des contraires, c'est plat. Et vous n'éveillez personne. Tandis que vous réveillez par le sens des contraires. Là, vous aussi, vous découvrez ce que c'est que la qualité par les contraires. Et puis, vous pouvez découvrir la qualité au niveau de l'être. Là, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que c'est que la qualité au point de vue de l'être? C'est ce que nous allons faire. Vous pouvez faire ça aussi pour la quantité. Vous pouvez faire ça aussi de la relation. Alors, je commence par la qualité parce que c'est la qualité, j'allais dire, qui a le plus d'être. Après la quantité, et puis après la relation. Et vous allez voir que l'être se menuise de plus en plus. Quand vous passez de la qualité à la quantité et à la relation. C'est pour ça que la relation, c'est l'extrême de la substance. Parce que la substance, c'est le beefsteak. Alors quand il n'y a pas de beefsteak, il y a des bouts de viande accidentels. Tandis qu'il y a le beefsteak, on sait que c'est le beefsteak. L'accident, c'est quelque chose qu'on essaie de saisir, mais très difficile à saisir. Alors entre la substance et la relation, il y a la qualité. Alors on va essayer, au plan philosophique, hein, étudier ce que c'est que la qualité. Alors si vous voulez d'abord une toute petite topique historique, c'est intéressant, ce serait très intéressant du reste de la poussée. Je crois que c'est, d'une part, la première école philosophique de Millet qui nous fait comprendre les contraires. Et les pythagoriciens regardent la qualité en voyant le rôle essentiel de la qualité. Chez les pythagoriciens, c'est la qualité figure, l'harmonie. C'est ça qu'ils regardent avant tout. Ils sont très proches des nombres. Mais les nombres impliquent une figure. C'est pas du tout le nombre abstrait. C'est le nombre qui implique une figure. Je crois que la découverte première, génétiquement parlant, de la qualité dans notre philosophie occidentale, c'est d'abord les qualités contraires qui expliquent le mouvement. Tout changement s'explique par les qualités contraires. Quand Giscard dit qu'il faut le mouvement, eh bien, s'il était un peu plus philosophe, il comprendrait qu'il faut mettre les qualités contraires. Et que le mouvement voulu pour le mouvement conduit à la révolution. C'est ça qui est intéressant à saisir, vous comprenez, il faut saisir ces choses-là, il faut être un petit peu intelligent quand même. Et comprendre que les qualités contraires sont source du mouvement. Et que le mouvement voulu pour lui-même, c'est la révolution. Révolution culturelle, on voit bien ça, à notre époque, c'est ça. Donc, qualité contraire explique le mouvement, et la qualité figure explique la structure du cosmos. C'est très curieux. Et c'est les deux grandes lumières du point de départ. C'est intéressant de voir, vous voyez, comment la qualité est-elle entrée dans la réflexion philosophique. Génétiquement parlant, comment elle est entrée? La qualité considérée sous ces deux aspects très différents, les contraires et la figura, semble donc permettre une certaine explication des deux dimensions essentielles de notre univers et de nous-mêmes, le devenir et la structure. Très curieux. Et ça, c'est très intéressant. Le structuralisme, c'est vieux le structuralisme. Le structuralisme veut lutter contre le mouvement perpétuel. Déstructurer pour qu'il n'y ait plus que le mouvement. Structurer pour stabiliser. C'est les deux aspects constants. Il y avait une exposition à Paris, il y a déjà assez longtemps, en faisant le parallèle entre l'art de l'Inde et l'art grec. Et c'était très intéressant de voir le génie de l'Inde et le génie grec exprimé dans la sculpture. Et vous voyez que le génie grec, c'était le génie du mouvement. Et le génie de l'Inde, c'était la structure immobile. C'est très très intéressant à saisir ces aspects qualitatifs. Il y a des artistes du mouvement et il y a des artistes de la structure. Quand on est fatigué du mouvement, on passe à la structure. Et quand on est fatigué de la structure, on revient au mouvement. C'est les qualités premières, voyez, les deux contraires et puis la figura qui structure. Alors, je ne regarde que tout de suite le premier grand philosophe de la qualité. Et je dis bien, le premier grand philosophe de la qualité, c'est Platon. C'est le grand philosophe de la qualité. Il semble bien que, dans notre philosophie occidentale, avant Platon, aucun terme propre n'ait été élaboré par les philosophes pour désigner la qualité, considérée en elle-même. Il n'en éprouvait pas le besoin. C'est toujours très intéressant de voir quand un terme naît, la naissance du terme. Parce que ça prouve qu'on a saisi quelque chose et qu'on doit l'exprimer. Or, avant Platon, vous avez bien des termes qui expriment les contraires, qui expriment la figura. Et vous n'avez aucun terme qui exprime la qualité. On n'est pas arrivé à ce niveau de pénétration de la qualité. Alors on reste devant les diverses qualités, les contraires, la figura. C'est Platon le premier qui introduit le terme de la qualité dans la philosophie grecque. Poiotes, forgé à partir de poion. Donc poiotes, l'abstrait de poion. Poionti. Poionti, c'est le point de vue tout simplement du quelque chose de qualifié, un ouvrier qualifié, un être qualifié. Poionti. C'est l'aspect qualitatif. Eh bien, c'est curieux, hein? Le mot naît à partir de Platon. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que ousia naît à partir de Platon. Donc, la distinction entre substance et qualité, elle est platonicienne. Elle sera ensuite aristotélicienne. Mais elle est d'abord platonicienne. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut reconnaître ça. Mais Platon est celui qui a introduit quelque chose d'extrêmement important. Parlant du patient qui devient sentant et non point sensation, de l'agent qui devient qualifié, poionti, et non point qualité, poionteta, Platon souligne. Alors ce petit texte de Platon, c'est dans le Théétète, 182a. Platon souligne, peut-être cette qualité, poiontes, est-elle pour toi un nom insolite? C'est intéressant parce que ça prouve qu'il est conscient qu'employant poiontes, il est celui qui introduit un nouveau mot. Peut-être cette qualité, poiotes, est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale. Donc vous êtes là au premier moment où le philosophe éprouve le besoin de parler de la qualité. Alors, si vous voulez comprendre ce que c'est que la qualité, revenez à ce nom insolite pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que vous parlez tout le temps de la qualité, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et nous sommes tous comme ça, nous parlons de la qualité, mais qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Un être qualitatif. Et non pas un être quantitatif. Je suis sûr que vous êtes tous pour la qualité, si je vous demandais. Hein. Franchement, aimez-vous mieux beaucoup de vin qui est une piquette que quelques bonnes bouteilles. À droite, ceux qui sont pour la qualité. À gauche, ceux qui sont pour la quantité. Je crois que parmi vous, il y en aurait très peu qui resteraient du côté de la quantité. Tous seraient du côté de la qualité, parce que c'est quand même plus intelligent. Très rare, il faut quelqu'un qui dit, ou d'emblée, moi je suis pour la quantité. Parce que la quantité, ça rapporte. La qualité, ça rend pauvre. Tiens, c'est curieux. Ça, c'est très intéressant. Et le raisonnement de l'économiste, il est quantitatif. Et le raisonnement de l'artiste, il est qualitatif. Et le raisonnement de l'économiste, c'est de la quantité. C'est de la quantité, c'est la série. Et le plus rapidement possible, ça paie. Tandis que de l'autre côté, alors, l'économiste attentif et intelligent, parce qu'il y en a de temps en temps, l'économiste attentif et intelligent dira, attention, la pure quantité va à la perte. Il faut de temps en temps rajeunir la qualité. Autrement dit, au milieu d'une quantité de petits prophètes, il faut de temps en temps un grand prophète pour redonner le sens du prophète. C'est comme ça au point de vue de l'économie. Si vous êtes attentif, vous voyez exactement ça. C'est le domaine, la quantité. La quantité, ça va. Mais attention, la quantité demande de temps en temps d'être rachetée par la qualité. Alors, faut de temps en temps un grand prophète. Faut de temps en temps sortir une auto extraordinaire. Alors, après la série, ça se vend. Mais si vous êtes tout le temps dans la série, ça décline. De temps en temps. Regardez les réclames. On essaie de mettre un aspect qualitatif. Et du reste, très souvent, alors là, ce sera à voir. Très souvent, on confond qualité et originalité. Donc, posez-vous la question. Quelle différence y a-t-il entre la qualité et l'originalité? Parce que toute originalité n'est pas qualitative. Quand vous faites le pitre, c'est original. C'est pas toujours qualitatif. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc voyez bien, Platon a pleine conscience de ça. Ça, c'est ce petit passage à ce point de vue-là est très intéressant. Cette qualité, poiétès, est-elle pour toi un nom insolite ? En même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale. C'est pour traduire ce mot « poiétesse » que Cicéron forgera le mot latin « qualitas ». Cicéron, vous savez bien, c'est l'homme de la communication. Communication du grec au latin. Un traducteur. C'est un homme de la communication. Quand la Bible de Jérusalem se met à traduire, elle n'a qu'un seul souci, c'est que ce soit bien transmissible. Quand Hostie traduit, il veut fidèle. Tiens, différence entre la fidélité et la communication. Ça en dit long, ça. Vous voyez, j'essaie de vous éveiller à la qualité. Pour montrer ces choses qui sont distinctes, qui sont pas tout à fait la même chose. La fidélité, c'est la qualité dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que la qualité dans l'amour ? C'est la fidélité, je crois. Il peut y avoir un amour dégradant qui est extrêmement commutatif. Alors, Cicéron va traduire le mot poietes en qualitas. Alors, chercher en arabe le mot qualité. Enfin, c'est évident, Avicenne et Averroès, ils ont le mot qualité. Parce que ça vient ensuite. C'est pas premier. Premier, c'est la Grèce et le latin qui ont forgé ces deux mots, poietes, qualitas. En s'excusant à son tour, Cicéron qui s'excuse, hein, ce bon rhéteur, puisque l'homme de la communication, c'est très ennuyeux d'inventer un mot que personne ne comprend. Mais c'est en même temps original, donc il est très content. En s'excusant à son tour d'utiliser ce terme, inouï, c'est très joli, inouï n'est pas audible. Transposition d'un terme grec, non point courant, mais purement philosophique. C'est Cicéron qui dit ça. Debitis enim profecto ut in rebus inusita. C'est un terme inusité. C'est un terme philosophique. Platon, alors vous voyez, premièrement, ça, je crois que c'est intéressant de voir cet aspect quand le nom apparaît. Platon n'a pas seulement forgé le mot poietes, il a élaboré toute une philosophie de la qualité, vertu. Arrêté. Dans le Cratyle. Le Cratyle, vous savez, c'est un livre qu'on doit aimer beaucoup, auquel il faut revenir souvent. C'est le livre des étymologies. Donc, c'est le point de départ de la philologie. Tout à fait radical. Le Cratyle. Dans le Cratyle, il explique, à sa manière, la signification du mot arrêter. Ce nom signifie d'abord l'aisance de la marche. C'est joli, hein? Arrêter. La vertu, c'est l'aisance de la marche. Est-ce que vous avez un petit peu d'aisance dans votre marche? Alors vous êtes vertueux. Regardez un lévrier. L'aisance de la marche. Regardez un cheval. L'aisance, un cheval racé. L'aisance de la marche. C'est beau. Vous voyez tout de suite, arrêter. La vertu. Ce pur sang, ça se distingue à l'aisance de sa marche, la manière dont il se met trotter, le galop, la manière dont il saute. C'est extraordinaire comme élégance. Je vois très bien la vertu. Alors quand vous transposez dans l'homme, évidemment, c'est pas toujours vrai, parce que vous avez des vieillards qui ont une démarche assez pesante et qui sont vertueux. Le vieux vin merveilleux. Voyez le passage entre les deux. Alors, ce nom signifie d'abord l'aisance de la marche, puis le cours toujours libre de l'âme bonne, l'élan. C'est ce qui coule toujours, aireon, sans gêne, sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce nom. Voyez, philosophie du mouvement. Comment le mot qualité est lié à l'aisance de la marche. Ça, c'est grec. C'est typiquement grec, ça. Si on veut saisir le génie grec, c'est là où on doit le saisir, oui, par la qualité. Je crois, du reste, que toujours comme ça, le génie d'une culture se saisit par la manière dont cette culture définit la qualité. Ça, ce serait une piste très intéressante pour saisir ce que c'est que la culture. Parce que c'est pas par la substance, vous comprenez bien. C'est pas la qualité. Parce qu'une culture est toujours liée à l'art. C'est l'art qui fait la culture. Et c'est la culture qui permet le développement de l'art. Et donc c'est le domaine de la qualité. Et c'est la manière dont on conçoit la qualité qui fera la culture. C'est pour ça que c'est intéressant de voir dans le Cratyle cette manière dont Platon qui regarde l'arrêté, la vertu, qui la regarde de cette manière, ce nom signifie d'abord l'aisance de la marche, puis le cours toujours libre de l'âme bonne. C'est ce qui coule toujours, sans gêne, sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce nom. Il est juste de l'appeler Aïrétès. Mais peut-être l'auteur veut-il dire Aïrétès préférable pour indiquer que cette disposition est préférable entre toutes. La contraction a donné le mot arrêter. C'est une étymologie à la Platon. Mais c'est toujours très amusant de voir cette manière-là dont Platon voit la signification du mot. Parce que quand vous parlez de vertu, je crois que vous ne pensez pas du tout à l'aisance dans le mouvement.